Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional, Chambre d'agriculture du Rhône, avec le nouvellement nommé à la présidence de la Chambre d'agriculture du Rhône, Dominique Desprats, puis le programme des animations de Noël en Calade avec la conseillère municipale commerce et marché Delphine Dubostival de Villefranche-sur-Saône et une journée de laïcité au collège Maurice Utriot de Lima par Valérie Blais. Calade, le journal. À Noël, offrez-vous une poule. Le gallinacé n'a jamais eu autant la cote. C'est un bienfait sur pattes. Il valorise nos déchets organiques en les mangeant, il pond des œufs, il amuse les enfants. Le grand chic est même d'acquérir une poule dite réformée, soit âgée de 18 mois et plus. Passé cet âge, le taux de ponte du volatile chute en effet progressivement, par cycle. Sa perte de rentabilité le conduit alors directement à l'abattoir. De là, il rejoindra ensuite l'industrie de bouillon cube et de la croquette pour chien. Triste destin. Sauf à être sauvé, tel est le terme employé par un nombre grandissant de sociétés et de collectifs spécialisés dans le rachat et la revente de poules en fin de cycle, nous confie Frédéric Potet du journal Le Monde. Il nous emmène chez Stéphanie, dans le Loir-et-Cher. À 46 ans, elle a créé les cocottes de Steph il y a 9 mois, après avoir vu l'envie de poule exploser pendant le premier confinement. Elle œuvrait alors bénévolement au sein d'une association vouée au bien-être animal. On ne trouvait plus d'œufs dans les magasins. Tout le monde voulait avoir des poules chez soi. Elle fait depuis la tournée d'un petit nombre de fermes de la région Centre-Val de Loire au moment des renouvellements de cheptel. Seules les poules bio et plein air trouvent grâce à ses yeux. Elles sont plus équilibrées que les poules de batterie, qui tombent malades dès qu'on les sort et qui ont peur de leur ombre. Achetées entre 2 et 3 euros, chaque volaille est inspectée et soignée si nécessaire par sa nouvelle propriétaire, qui la revendra ensuite 7 euros lors d'opérations de sauvetage d'urgence chez elle ou dans des communes des environs. Parce que même les poules ont le droit à une deuxième chance. Nouvellement nommée à la présidence de la Chambre d'agriculture du Rhône, nous engageons une discussion par téléphone avec Dominique Desprats, actuel maire de Clavaisole, sur les enjeux et perspectives d'avenir de sa mandature. Il est joint par téléphone.
Dominique Desprats, je suis éleveur à Clavaisole, dans les monts du Beaujolais, sur une exploitation donc en vaches laitières et chèvres laitières, où on transforme une partie de notre production en fromage et où on a un magasin de vente à la ferme de différents produits du terroir. On est trois associés sur l'exploitation qui s'appelle Ferme de l'Espoir et cinq salariés.
Avec une production bio, je crois. Hein ?
Oui, c'est ça.
Dominique Desprats compte de nombreuses responsabilités à son actif.
Un peu, oui. Donc j'ai été conseiller régional jusqu'aux dernières élections régionales. Je suis maire de ma commune de Clavaisole. J'ai été engagé chez les jeunes agriculteurs et à la FDSEA du Rhône après, qui m'ont permis notamment de me reformer et puis d'acquérir certaines un peu compétences.
Une longue participation d'élu au sein du conseil de la Chambre.
Oui, j'étais élu à la Chambre d'agriculture en tant que membre à la session Chambre d'agriculture depuis maintenant 15 ans.
Les raisons de son engagement à la présidence.
Aujourd'hui, le président arrivant à la retraite, fallait qu'il y ait un nouveau président qui soit élu. Les membres de la Chambre d'agriculture avec les membres de la FDSEA m'ont demandé de prendre cette responsabilité. Je ne sais pas si j'étais le meilleur d'entre eux.
Quelles sont les prérogatives à venir ?
Non, notre lourde charge, on est un département un peu atypique au niveau agriculture, puisqu'on a Lyon, qui est une des plus grandes métropoles de France. Et donc, l'agriculture n'est pas la même quand on est dans le Cantal ou quand on est dans le département du Rhône. À plusieurs points de vue, c'est que l'agriculture est très diverse dans notre département, dans ses différentes productions, du maraîchage aux grandes cultures. Aussi, le mode de transformation, le mode de commercialisation est très différent d'une exploitation à une autre. On a beaucoup de gens qui peuvent vendre en direct, beaucoup de gens qui peuvent transformer de telle ou telle manière. Et aujourd'hui, on voit que, notamment derrière cette crise sanitaire, on a une appétence d'un retour au vert, d'un retour aux produits du terroir, des reconversions professionnelles. Donc, c'est d'accompagner tous les profils d'agriculture, ce qui n'est pas si évident que ça quand vous êtes monoculture ou qu'un type d'exploitation. population, c'est un peu plus facile.
À la présidence de la mandature, avez-vous la charge d'influencer ou encore de développer des modes et pratiques agricoles ?
Nous, notre but, c'est pas d'influencer de telle ou telle, telle ou telle production ou tel mode de commercialisation. Par contre, je pense qu'on travaille en lien avec les collectivités et c'est d'essayer que l'agriculture colle de plus en plus finalement à la demande sociétale. Aussi, il faut que les agriculteurs puissent en vivre. Et je trouve que ne faisons pas de la radicalisation de l'agriculture comme certains voudraient en faire un peu quand ils sont à la tête de collectivités. Moi, je pense qu'il faut avoir une agriculture plus ou moins modérée qui s'adapte en permanence comme elle s'est toujours adaptée depuis notamment après-guerre. Donc l'environnement est un vrai sujet, mais aujourd'hui, faisons attention aussi que de faire trop de l'environnement, qu'on n'affame pas certaines tranches de la population qui ont quand même des ressources plus modérées. Aujourd'hui, on demanderait d'acheter à des gens qui ont des ressources assez faibles, même qui travaillent, d'acheter tout bio. Je pense pas qu'ils arriveraient à se nourrir dignement.
Votre réflexion sur la problématique du départ massif prochain des agriculteurs en retraite et leur remplacement.
On a bien vu, il y a eu plein de... Ce week-end, là, ça a été un peu le sujet d'actualité, le nombre... d'arrêt d'activité au niveau agricole depuis 10 ans. C'est un réel sujet. Aussi, il y a quand même des technologies et de la modernisation qui a fait que le métier d'agriculteur attirait plus parce qu'il avait moins de pénibilité. Donc le sujet, c'est pas non plus peut-être de faire du 1 pour 1, mais bon, notamment dans la viticulture, aujourd'hui, on voit que plus de 50% des viticulteurs ont plus de 55 ans, donc il y aura une réelle demande de bras en viticulture. Mais la bonne nouvelle, c'est que les écoles de formations sont pleines aujourd'hui. Le métier d'agriculteur refait envie et on a des gens qui se forment à ce métier-là. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle aussi. Après, de là qu'ils s'installent, c'est un peu plus compliqué, qu'ils reprennent des exploitations. Par contre, c'est le sujet prioritaire d'installer. Parce qu'aujourd'hui, si on veut de l'agriculture, de la viticulture dans ce beau département, il faut des hommes et des femmes. Et donc, faut installer des jeunes. C'est la pierre angulaire.
Et sur la question des projets de mandature.
Pour moi, c'est vraiment l'installation des jeunes agriculteurs. Après, c'est quand même l'adaptation aux nouveaux enjeux environnementaux, l'adaptation à nouveaux modes de consommation. Et aussi un sujet, c'est l'eau. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire du maraîchage. Mais le gros paradoxe, c'est que personne ne veut faire des lacs collinaires ou le sujet d'irrigation est un gros mot. Donc, c'est d'accompagner ces profils de projet pour qu'ils puissent mener à bien leur projet. Donc, voilà.
Dominique Desprats confie, extrait d'un communiqué, « L'avenir de notre agriculture, de nos agricultures, passera, c'est évident, par l'arrivée de nouvelles forces vives sur nos territoires, aux côtés des agriculteurs et des territoires dans le développement, grâce notamment à la proximité. Cette proximité nous servira également à être le porte-parole efficace et représentatif des intérêts du monde agricole et rural pour l'État et les collectivités territoriales. » Le programme des animations de Noël en Calade avec Delphine Dubost-Stival, conseillère municipale commerce et marché de Villefranche, dès à présent jusqu'au 2 janvier 2022. On commence tout d'abord par une bonne nouvelle.
Effectivement, Monsieur le maire a souhaité qu'on reconduise cette année, comme de nombreuses années, donc les 2 heures de stationnement en parking clos. Donc nous avons le parking Claude Bernard, le parking des Ursulines, le parking Boiron, le parking Chasset, bref, que j'en oublie pas, j'espère. Mais voilà, tout est reconduit encore dans le stationnement pour permettre aux Caladois de venir faire les courses de Noël sans avoir de soucis de stationnement. Bien sûr, notre village de Noël donc, est présent. La patinoire, on a la chance qu'elle soit effectivement présente cette année, contrairement à l'année dernière. Le village de Noël avec Madame Baudier-Perrin qui sera présente donc, comme elle l'est habituellement tout le reste de l'année. Nous avons également donc, le Père Noël qui sera présent pour les photographies avec les enfants, avec le photographe donc, David Kierzak. Et nous avons aussi cette année l'association Bikers, donc les motards qui ont un chalet effectivement. C'est une association donc, pour l'aide pour les enfants qui est présente dans un chalet cette année. Je crois que la surprise qui n'en est plus une, c'est que nous aurons le 18 décembre aux arrivées à peu près 17h30, 18h sur Villefranche, rue Nationale, avec le défilé des Pères Noël en moto qui seront présents et qui arriveront sur Villefranche.
C'était Delphine Dubostival, conseillère municipale commerce et marché de Villefranche. Les festivités ont déjà démarré et se poursuivent jusqu'au 2 janvier 2022, place des Arts.
Jeudi 9 décembre, c'était la journée de la laïcité, mais aussi celle de la Déclaration des droits de l'homme.
Pour faire suite aux demandes du ministère sur l'hommage à Samuel Paty, le collège Maurice Utriot à Lima avait mis en place une minute de silence déjà le vendredi 15 octobre et souhaitait réaliser un travail plus approfondi le jour de la laïcité. À notre micro, Madame Céline Michel-Bert, proviseur adjoint et des élèves de 3e qui reviennent sur la réalisation de slogans et d'affiches et nous expliquent ce qu'évoque pour eux la liberté d'expression en 2021.
On a fait le choix, avec les enseignants d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique, de travailler sur la laïcité et plus particulièrement sur la liberté d'expression en référence avec les deux personnes qui ont obtenu le prix Nobel de la paix et qui doivent le recevoir ce jour à Stockholm. Donc les enseignants d'histoire-géographie ont proposé un travail sur un dossier documentaire pendant une heure en 6e, 5e avec la réalisation de slogans et pour les 4e, 3e, un travail sur un autre dossier documentaire de 2 heures avec la réalisation des affiches et toutes ces affiches réalisées en groupe ont été placées dans le hall du collège. Chaque élève est venu nous apporter sa réalisation. C'était une expérience très chouette avec un investissement total des élèves et de très belles réalisations.
Alors on est aussi avec des élèves.
Je m'appelle Ayoub.
Bonjour, je m'appelle Bouchra.
Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis en classe de 3e, 4 aussi.
Avec Madame Cordelier, on a travaillé sur la laïcité et je trouve que c'est bien.
On a eu des documents à analyser pour à la fin pouvoir faire un slogan et... Faire 3 phrases par rapport à la liberté de presse ou d'expression.
Quelles sont ces phrases ?
Moi, mon slogan, c'était « La liberté, c'est comme l'air, tout le monde y a droit ». Mais chacun a fait un slogan qu'il a inventé lui-même.
Qu'est-ce que ça vous évoque, cette thématique de la liberté d'expression ?
Déjà, le fait que on a fait ça, je trouve que c'est bien pour se renseigner pour les personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est et pour dénoncer.
Surtout faire la différence entre le racisme et la liberté d'expression. On y a beaucoup travaillé parce qu'il y a des termes à ne pas utiliser. Même s'il y a une liberté d'expression dans la loi, il y a certaines choses à ne pas dire. Oui, voilà, dans le respect. Mais on a tous le droit de penser ce qu'on veut. On a tous le droit d'avoir notre propre avis. En fait, comme nous expliquait notre prof, il y a des choses réelles, comme la couleur de peau, les origines, des choses comme ça qu'il ne faut pas dénigrer. Voilà, tout à fait, il ne faut pas dénigrer. Les croyances, on a chacun le droit d'avoir notre propre avis dessus, par exemple.
Mais dans le respect, toujours.
C'est la limite entre la sphère privée et la sphère publique. Voilà. C'est ça, la laïcité.
Alors, on a plusieurs slogans, comme « Le journaliste est aussi précieux que la santé ».
Qu'est-ce que ça sous-entend ?
Il risque sa vie dans des pays, il défend le citoyen des poisons, des dictatures, et il est au service de la liberté. Ensuite, on a, par exemple, « Save the liberty », « Protéger les journalistes, car sans eux, nous, citoyens, nous ne serions pas informés ». La parole est un pouvoir, utilisons-la. Il y a la liberté d'expression est un droit, pas un crime. Donc donner son opinion est humain. Vive la liberté de presse, vive la liberté d'expression et laissez-nous parler.
J'ai le droit de penser ce que je veux.
La liberté d'expression, ce n'est pas la prison. Car ça ne doit pas être dangereux d'informer son pays sur des faits. Nous avons choisi ce slogan parce que les journalistes qui dénoncent ne devraient pas être en prison.
Après, il y a chacun son opinion, chacun son expression. Elle est utile à tous les citoyens. La dictature empêche la liberté et beaucoup défendent la liberté d'expression.
La liberté, à nous de la sauver. Pour finir, on doit sauver la liberté car nous voulons qu'un jour, les générations futures puissent librement s'exprimer.
Ouais, se taire, c'est s'éteindre. Certains se sont sacrifiés pour la liberté.
Notre professeur d'histoire géo, c'est Madame Guimet et on travaille sur l'URSS et le goulag, sur les droits de l'homme aussi. On a aussi parlé de ce qui se passe en Chine, des Ouïghours par rapport au travail forcé. Ouais, ici, on a une chance. Parce que c'est pas tout à fait pareil que ce qui se passe en Chine ou dans les autres pays.
Il y a aussi plusieurs journaux qui ont fait une lettre ouverte à tous les citoyens à propos de la liberté d'expression, la liberté d'écrire, de dessiner, et aussi en hommage à Samuel Paty. C'est un document qu'on a analysé, on a répondu à certaines questions par rapport à ce texte et aux droits de l'homme.
C'était dans le dossier documentaire avec une carte. Quels sont les territoires, les pays qui enfreignent la liberté d'expression ?
C'était Madame Céline Michel-Bert, proviseur adjoint, Sarah, Bouchra et Ayoub, élèves de 3e du collège Maurice Utriot de Lima, en réaction à la journée consacrée à la laïcité et aux droits de l'homme autour de la liberté d'expression. de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.